Bonjour. Dans le cadre de l'émission L'écho de ma commune, animée habituellement par Marie-France Guimard-Roche, que je remplace aujourd'hui, je reçois dans les studios de Radio Grand Ciel à Dreux M. Charles Fournier, deuxième vice-président du Conseil régional Centre-Val de Loire. Bonjour, monsieur le vice-président.
Bonjour.
Et merci de vous être déplacé de si loin en empruntant la RN 154. Comme j'ai maintenant l'habitude de pratiquer lors de mes interviews, j'ai invité Annie Duval-Pétrix du journal M. Ta Ville qui vous posera la dernière question de notre rencontre. Dans votre actualité, j'aimerais que vous nous parliez de ce qui a changé depuis les dernières élections régionales où votre groupe Écologie et Solidarité occupe 12 sièges, dont 4 fauteuils de vice-président. Vous êtes allié par un accord de mandature avec 2 autres groupes, le groupe socialiste, radicaux citoyens, et le groupe communiste et républicain, ça fait presque tout le monde, pour se réunir pour un projet de mandat 21-28 et que vous avez appelé un nouveau souffle. Comment ce nouveau souffle va-t-il s'articuler avec la première COP Centre-Val-de-Loire et la région 360 degrés Stradette-Centre-Val-de-Loire ? Stradette, je dis, c'est le schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires.
Très bien. Déjà, merci de votre invitation. Peut-être, je voudrais juste rappeler que la démarche Un nouveau souffle qui s'est construit pendant les élections régionales était une démarche profondément citoyenne et ancrée dans les territoires. Et c'était une de ses originalités. On a fait un travail assez extraordinaire pendant un an, puisque cette campagne a duré très longtemps. Et on a fabriqué collectivement. Et aujourd'hui, une des traductions de cette démarche citoyenne, c'est que sur les 4 vice-présidences que vous évoquez, 3 ont été confiées à des personnes hors des partis politiques. Pas qu'il soit honteux d'être dans un parti politique, mais si on veut amener du renouvellement, un nouveau souffle, puisque c'était notre nom, et bien c'est bien aussi d'avoir des personnes qui apportent ce nouveau souffle, cette nouvelle dimension. Effectivement, nous avons un rapport de force qui a évolué, qui nous est plus favorable à l'intérieur de cette majorité régionale. Je dis rapport de force parce qu'il faut bien comprendre que on se met d'accord dans un deuxième tour d'élection sur un contrat de mandature, mais ce contrat de mandature, il fonctionne si on se bat pour le faire vivre. Voilà, des deux côtés. Chacun se bat pour défendre ses idées. Et donc, plus on est nombreux, plus on peut faciliter la défense de cette ambition pour la région. La nôtre, elle était évidemment une ambition face aux enjeux climatique, biodiversité, écologique, d'une façon générale, qui sont des enjeux extrêmement présents, qui bouleversent nos vies, vont bouleverser nos vies, des enjeux sociaux, avec un niveau d'inégalité, et qui est d'ailleurs directement lié au premier sujet. On a tendance à vouloir hiérarchiser la question sociale et la question écologique. Mais ce sont un peu les mêmes questions. Finalement, quand on ne fait pas d'écologie, ce sont toujours les plus vulnérables, les premières victimes. Les plus vulnérables dans le monde qui sont obligés de quitter leur pays parce qu'ils ne peuvent plus produire de l'agriculture pour se nourrir, parce qu'ils n'ont plus accès à l'énergie, parce qu'il y a des conflits en relation avec ces questions d'énergie ou ces questions alimentaires. Et puis, dans notre pays, si on vient plus près, ceux qui vivent dans les logements mal isolés, ceux qui n'ont pas accès à des mobilités de qualité, ceux qui ne mangent pas bien, la malbouffe, ce sont toujours les mêmes. Et donc on creuse finalement, en ne faisant pas d'écologie, les inégalités dans lesquelles nous nous trouvons. Donc c'est 2 sujets qui sont intimement liés. Puis il y en a un troisième qui est le lien peut-être avec l'ensemble, c'est l'enjeu démocratique. C'est que nous sommes à un moment où il faut changer beaucoup de choses. Et ces changements-là, on ne peut pas les réussir d'en haut, en chambre, tout seul. On les fait avec les gens, on les fait avec les territoires, on les fait avec les citoyens. Je ne dis pas que c'est simple, mais il faut plus de démocratie pour réussir à avancer. Et on a un vrai risque face à ça. C'est que beaucoup se disent « rien ne change, Ça va pas, ça marche pas, la politique est abîmée, les élus sont tous des pourris, on entend beaucoup ça. Et donc la tentation, c'est de se dire il faut un pouvoir autoritaire face à ça. Un pouvoir autoritaire va tout régler. Et on sent bien l'ambiance en ce moment dans l'élection présidentielle qui va de ce côté-là. Et il y a même des gens qui se disent une dictature verte, pourquoi pas, finalement, pour imposer ce qui n'arrive pas à se faire. Moi, je crois que la voie, la seule qui peut fonctionner, c'est la voie d'une démocratie enrichie, augmentée, on l'appelle comme on veut, mais une démocratie qui fait qu'on va ensemble, collectivement, engager les changements qui se passent. Et c'est bien là l'exercice que nous avons à faire. Alors, au sein du Conseil régional, nous portons ces messages, évidemment, de manière très forte. Vous avez évoqué le SRADET. Bravo d'avoir réussi à décliner le sigle, parce que la région...
J'ai lu votre synthèse avec intérêt. C'est un petit peu pour ça que je vous ai invité, pour que vous nous expliquiez un petit peu toutes ces choses qui s'entrecroisent, parce que je suis un petit peu perdu. Oui. Donc, la synthèse du SRADET au Val de Loire m'a semblé quelquefois sans cohérence avec le projet 154, pour ne prendre que ça.
Bien sûr.
Ça ne va pas ensemble, il y a trop de choses qui coincent. La consommation des terres agricoles et forestières, par exemple, l'amélioration des structures existantes, privilégier les centres-bourgs. J'ai du mal à comprendre comment vous allez articuler tout ça.
Alors d'abord, il faut expliquer à vos auditeurs, auditrices, ce qu'est ce SRADET. La loi, il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe, Nouvelle Organisation du Territoire et de la République, a confié aux régions une responsabilité de planification, c'est-à-dire porter la vue de notre territoire à l'horizon de 2030. C'était ça l'horizon qui était proposé. Et donc cette responsabilité de planification s'est traduite par un petit pouvoir réglementaire. Je dis petit parce que vous verrez qu'il est très altéré et il est très limité finalement, puisque nous avons le pouvoir, à travers ce SRADET, de donner le cap, de fixer des objectifs, d'avoir des règles associées à ces objectifs, mais ces objectifs, ces règles n'entrent en application qu'une fois que les collectivités locales, dans leurs propres documents de planification, ce qu'on appelle par exemple le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, ou encore les PCAET, les plans climat, air, énergie territoriaux, c'est quand ces documents sont révisés que ce petit pouvoir réglementaire devient actif. C'est-à-dire que vous devez faire un document qui ne peut pas être en contradiction avec les objectifs et qui est totalement compatible avec les règles du SRADET. Donc vous voyez, nous on a fait cet exercice. Maintenant, l'étape suivante, fondamentale pour que les lignes bougent, c'est cette traduction dans les documents de planification locaux. Et là où on a une difficulté, et que la loi n'a pas corrigé, la première difficulté, c'est qu'il n'y a pas toujours des dates de révision pour ces documents. C'est-à-dire qu'un SCOT, on peut le réviser au bout de 10 ans. Je peux même dire que certaines collectivités sont dépêchées de finir leurs documents avant d'être contraints par ce SRADET. D'autres, leur processus n'était pas terminé. Et donc, on se retrouve dans une situation, évidemment, de contradiction. Je vais vous donner un exemple de contradiction qui est à l'œuvre en ce moment et qui, d'ailleurs, vient plutôt du privé, mais parfois avec la complicité, je le crois, de collectivités. C'est l'explosion des zones logistiques dans notre région. Région qui a une cible... Pour la logistique. Alors cette logistique, c'est quoi? C'est une logistique qui donc amène des produits qui viennent de très loin. C'est le contraire de tout ce qu'on a dit après la crise Covid, le retour au local, la relocalisation. Et cette logistique occupe beaucoup de surface, consomme des terres agricoles. Vous avez dit Combray ici, mais on peut prendre partout dans la région, Vierzon, Romorantin, Mer, Gidy, Main-sur-Loire, des énormes hangars, propriétés souvent de fonds de pension ou de sociétés qui font du business là-dessus, et pas propriétaires de celui qui fabrique. Et ça, cette consommation de terre pose un énorme problème. En France, c'est un département tous les 7 ans qui est consommé en terre agricole. À un moment donné, on va avoir un problème pour se nourrir. C'est ça le sujet. Et donc, du coup, sur cette consommation vient en plus créer une concurrence avec la relocalisation dont tout le monde parle aujourd'hui. Avant la crise Covid, personne, quand nous on disait, les écologistes, qu'il faut faire relocaliser l'économie, on nous prenait pour des barjots. Maintenant, tout le monde dit il faut relocaliser, parce qu'on, d'un seul coup, on s'est aperçu qu'on était dépendant de chaînes très longues, que quand ces chaînes étaient rompues, c'était une catastrophe sur plein de domaines.
On a bien vu ça.
Et voilà. Et donc, face à ça, comment on va relocaliser si toutes les terres sont utilisées pour de la logistique et pour des chaînes très longues? Ouais, ça, c'est une contradiction. Alors, le SRADET, néanmoins, il est là. Il fixe un cap, il va fixer des règles. Le sujet, et ça c'est sur la part dont la région a la responsabilité, nous on est en train d'adapter toutes nos politiques publiques pour qu'elles soient cohérentes avec ce que dit le SRADET. Mais vous voyez bien qu'il y a une part qui va venir des collectivités territoriales, et il y a un principe en France, et c'est normal qu'il existe, c'est le principe de libre administration. C'est-à-dire que par le haut, on ne peut pas imposer aux collectivités tout ce qu'elles doivent faire. Elles ont leur libre arbitre. Maintenant, le travail, c'est d'aller les embarquer, travailler avec eux, chaque fois qu'elles vont élaborer ces documents, pour dire « attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Et c'est l'État qui a le pouvoir réglementaire de s'assurer que le SRADET sera bien pris en considération dans les territoires. Vous voyez, sauf qu'il y a un temps de latence qui malheureusement décale ça dans le temps. Nous, en tout cas, je crois qu'on a poussé un SRADET assez loin. On dit diminuer de moitié l'artificialisation à l'horizon de 2025 et à zéro net, c'est-à-dire en moyenne régionale, à l'horizon de 2040. Moi, j'étais pour 2030, hein, pour tout vous dire. Voilà, la négociation a donné 2040. Mais la marche, elle est quand même haute. Et ça, c'est là. Maintenant, ça va forcément servir de repère pour tous les territoires. Pour ceux qui l'intégreront dès maintenant dans leurs documents, évidemment, ça sera fort. Et l'État pourra invalider les documents s'ils ne sont pas compatibles avec ça. Donc on a quand même mis des ambitions là-dessus. On a des ambitions sur la réduction, par exemple, de la part de la voiture individuelle, de 5 points. C'est exactement ce que dit le scénario Négawatt, qui est un scénario de transition énergétique qui existe. Moins 5 points dès 2025. C'est demain. Et puis moins 20 points à l'horizon de 2030. Donc on a quand même poussé le bouchon. Pareil sur le fret. On a prévu une diminution très forte du fret routier et un report... faut-il avoir toute l'organisation qui va avec, vers du ferroutage ou vers d'autres modes de transport. Voilà, donc il y a dans ce SRADET beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, le sujet, c'est de le faire vivre, c'est d'avoir des politiques publiques qui sont cohérentes. Et je vais vous dire, l'enjeu, je crois, aujourd'hui, c'est cette affaire de cohérence. C'est-à-dire que pendant des années... Et c'est pour ça qu'on n'est pas aligné sur les trajectoires de la COP21 et qu'aujourd'hui, on s'écarte sur de nombreux aspects. C'est parce qu'il n'y a pas de cohérence globale. C'est que d'un côté, on fait un beau bâtiment à énergie positive, on est très fiers, on coupe les rubans. Mais d'un autre côté, on peut faire exactement le contraire et perdre tous les bénéfices de ce qu'on a fait d'un côté. L'écologie impose une cohérence dans tous les actes. En tout cas, c'est ce que moi, je défends et c'est ce que défend, je crois, l'écologie
politique. Mais effectivement, beaucoup de gens, sans être... purement écologique, qui défendent.
Bien sûr, monsieur. Quand je dis écologiste, c'est au sens large.
Hein, oui,
c'est
parce pas, qu'on, au sens oui, partidaire. Mais dans les conversations communes, quand on dit qu'on est écolo, on est plutôt de gauche. Alors que pour moi, l'écologie, c'est uniquement l'écologie. On peut être écologie ce qu'on veut en même temps. L'écologie, c'est ça se suffit à lui-même.
Oui, alors moi, pour moi, l'écologie politique, pour être précis, c'est une façon de penser le monde. Vous savez ce que veut dire le mot écologie ? Le mot écologie renvoie à l'habitat, c'est la racine. Et l'écologie nous pose la question de quelle manière nous habitons sur Terre. Et en fait, aujourd'hui, on habite mal sur Terre. C'est-à-dire qu'on habite un endroit, on se déplace souvent pour aller travailler, tout le temps. Voilà, c'est pas un scandale de se déplacer, mais on se déplace de plus en plus loin. On consomme des produits qui ont extrait de la matière à un endroit, qui a fait le tour du monde, qui va être moins cher que ce que vous avez fabriqué à 10 km de chez vous. On n'habite plus sur Terre. On est en déconnexion, finalement, avec les réalités physiques, les réalités du monde, les limites planétaires. On est déconnecté de nos écosystèmes. Donc l'écologie, le projet de l'écologie, c'est ça. Et ça touche toutes nos activités humaines. Alors moi, je n'ai pas besoin de le situer à droite ou à gauche. Par contre, c'est un profond changement de modèle. Et c'est là où on bute beaucoup. Parce que, évidemment, c'est compliqué d'entendre ça. L'écologie, ce n'est pas seulement les petits oiseaux et les petites fleurs. C'est une pensée du monde et de notre manière de vivre, la coopération, comme dans les écosystèmes. C'est la coopération plutôt que la concurrence. C'est la proximité plutôt que l'éloignement. C'est tout ça, l'écologie. Et donc, c'est sûr que je ne dirais pas que c'est de droite ou de gauche. Ce que je peux simplement dire, c'est que peut-être, à gauche... Et en tout cas, c'est ce qui pourrait repenser la gauche, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, elle a du mal à se réimaginer.
Elle a du mal à se repenser.
Elle devrait être à l'endroit de cette rupture dans le changement de modèle. Elle devrait l'assumer. Et sauf qu'elle ne l'assume pas totalement, et qu'elle est bien souvent sur de l'accompagnement, mais finalement du modèle existant sans transformer. Et c'est là où on arrive aux contradictions. On va vous expliquer qu'il faut faire l'autoroute à 154 parce que c'est bon pour le modèle économique.
Oui.
Mais Y aura-t-il un modèle économique quand les écosystèmes seront complètement à terre, quand nous serons toutes et tous malades des pollutions que cela entraîne, quand des activités économiques se casseront la figure parce qu'il n'y aura plus de matières premières, parce qu'aujourd'hui on a épuisé totalement la planète. Oui, et là, il y a une perte de cohérence. Et donc, la gauche doit se réinventer avec ça. Si la droite le fait dans le même sens, moi, je n'ai pas de problème. Mais vous voyez, ça transcende. Ouais. Je vous rejoins là-dessus. Ouais. C'est au-delà.
Ouais. Je profite de ce détail sur la 154, qui reste toujours un sujet d'actualité. Alors, d'un côté, quand on interroge les élus sur la 154, ils ne veulent pas en parler. Mais c'est eux qui en parlent. C'est eux qui en parlent, malgré le temps qui passe, et qui remettent régulièrement le sujet sur le haut de la pile. Dernièrement, à peine élu, le président du conseil départemental interpelle le président Bonneau pour réclamer son autoroute. Et quelques jours plus tard, il fait voter au conseil départemental une motion pour rappeler à l'État ses engagements. Régulièrement, dans la presse locale, on peut lire des commentaires des uns et des autres, associations de défense environnement comprises. Avant que nous commencions l'enregistrement, je vous ai fait choisir un dessin. Le dessin de presse, c'est ma marotte. Je me fais un petit peu de pub au passage.
Bravo.
Ce n'est pas très radiophonique, mais ce que je vais faire, mais je vais essayer d'être clair pour les auditeurs, que les auditeurs comprennent. C'est un dessin de presse qui représente côte à côte trois vallées de notre région, l'Avre, la Blaise et l'Eure, avec des pêcheurs et des promeneurs. Un viaduc traverse ces trois vallées avec son lot de camions, de voitures et de motos. Les trois dessins sont identiques, seuls. La légende change. Vous avez choisi, sur ce dessin, attentat écologique, les trois vallées d'un coup, les victimes se taisent. Pourquoi avez-vous choisi ce ton? Je ne vais pas faire le détail des autres, de l'autre choix, mais celui-ci me convient tellement bien que je vais vous laisser le commenter.
Oui, bah, j'ai choisi celui-ci parce qu'on mesure bien que quand on se bat contre ces projets-là, on peut souvent avoir le sentiment d'être un peu seul et que d'autres intérêts, finalement, empêchent. Alors, ceux qui pourraient s'opposer se taisent. Ceux qui sont favorables, évidemment, sont embarqués dans un modèle et que, du coup, on se sent le petit poussé face à, évidemment, un mastodonte qui déroule son affaire. On a l'impression que, finalement, la résistance est extrêmement compliquée et qu'on est dans un moment où moi je crois profondément au collectif, à la force collective, à la mobilisation collective. Les jeunes nous l'ont un peu montré quand ils sont descendus dans la rue sur les questions de climat. Je peux vous dire que ça a bougé des lignes quand ils sont descendus dans la rue.
Oui, parce qu'ils sont descendus en masse.
Ah,
oui,
et ça a interpellé.
Des mobilisations comme ça, on en rêve tous.
Bah, quand vous avez des jeunes qui se mobilisent et qui disent bah, « moi je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je fasse des études parce que peut-être le monde va s'effondrer », quoi qu'on en pense, ça interpelle profondément. Exactement. Et les élus ont été un peu bousculés. Et donc moi, je crois à l'action collective. Par exemple, sur la logistique dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un jeune, je le cite, il s'appelle Noé, qui a pris la présidence d'un collectif amer contre ce centre logistique. Il a 18 ans, mais il n'a même pas 18 ans, il a 17 ans. Il a embarqué plein de jeunes dans ce combat-là. C'est assez extraordinaire, avec une intelligence remarquable, avec une sensibilité sur ce qui est en train de se passer. Donc ça donne de l'espoir. Et donc, moi, j'ai envie de dire, évidemment, les victimes ne peuvent pas se taire. C'est pas possible. On est sur des sujets qui embarquent nos vies, celles de nos enfants. Et donc, on a, je crois, le devoir, voilà, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le conçois, de s'engager sur des sujets comme cela, et que le silence assourdissant de tous ceux qui, finalement, ne s'expriment pas parce que pris par leur quotidien, et je le comprends, on est tous pris par nos quotidiens, mais ça affaiblit forcément les communs, parce qu'il y a plein de gens qui doivent être d'accord, mais qui, finalement, se taisent, voilà, et qui seront les victimes, parce que c'est ça, la conséquence, ça sera eux les victimes. Voilà, donc, moi, je crois qu'on a besoin d'un sursaut citoyen, dans la situation dans laquelle on est, et c'est ça qui marche. Vous voyez, j'ai été à Glasgow pour la COP26. J'ai été représenté la région. C'était plutôt à la fois un honneur, mais en même temps, forcément une déception quand on voit les résultats.
Oui,
hein.
Oui,
c'était
oui.
Extrêmement difficile.
Les rendez-vous à la COP27, en fait.
Bah, oui, ouais, oui. Voilà. Et c'était assez terrible. Mais quand on va là-bas, moi, ma conclusion en revenant, c'est de dire, quand les États ne sont pas au rendez-vous, il faut que les territoires soient au rendez-vous. Et donc, j'en appelle à une mobilisation des collectivités, des habitants, pour agir. C'est pour ça que nous allons déclarer l'état d'urgence écologique et sociale en région Centre-Val-de-Loire, en espérant embarquer tout le monde, en se disant « c'est maintenant que ça se joue ». On n'a pas 10 ans devant nous pour réfléchir aux solutions qu'on mettra en œuvre après. c'est maintenant qu'il faut faire des choix extrêmement forts. Et je pense que ça peut être extrêmement stimulant pour nous toutes et tous. On est à un moment de réinvention. Il y a quelque chose qui peut être très riche. Ce n'est pas juste une contrainte. Ce n'est pas juste pour vivre complètement contrit. C'est pour imaginer un autre monde. Et c'est dans ce moment que ça doit se jouer. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce dessin. Parce que je me reconnais dans l'idée. On n'a pas le droit de se taire dans ce moment-là. Il est trop important. Et ce n'est pas du catastrophisme que je fais. Parce qu'il y a des solutions. Oui. C'est plutôt... On doit dire l'état du monde et on doit dire en même temps les solutions. Et on est dans ce moment-là. Très particulier, voilà, et on peut pas le mettre sous silence. Et moi, j'ai l'impression qu'on est dans business as usual, de manière un peu permanente dans l'expression politique. Souvent, bah, finalement, on va continuer. Bon, d'accord, on va faire un peu de bâtiments verts, on va faire un peu de ceci, cela, mais c'est pas le changement de modèle dont nous avons besoin.
Et comment peut-on pousser les gens à ne pas se taire ?
Alors, d'abord, je crois que notre responsabilité, nous, les élus, c'est d'abord d'être aussi la chambre d'écho de ceux qui ne se taisent pas. C'est qu'il faut commencer par là. C'est-à-dire qu'il faut raconter ce que font des tas de gens partout. Moi, ce que je trouve extraordinaire, vous savez, j'ai fait une tournée pendant un an dans la région Centre-Val de Loire, où j'ai passé 32 journées dans les territoires à la rencontre d'initiatives inspirantes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a partout. Il y en a partout. Après, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qui vous est raconté aux 20h ou à n'importe quel moment. Donc notre responsabilité, c'est de raconter ça. Et tous les jours, je rencontre des acteurs à la région qui sont en train d'inventer des solutions. Hier, je rencontrais un chef d'entreprise qui est en train d'imaginer un outil numérique pour mesurer en temps direct les pollutions, les impacts environnementaux, la qualité de l'air, les émissions de gaz à effet de serre. On ne sait pas mesurer les gaz à effet de serre en temps donné. On sait les mesurer qu'à posteriori. Donc vous voyez, ça c'est extrêmement intéressant. Je rencontrais il n'y a pas longtemps un jeune qui était en train de créer une économie circulaire du vélo. C'est-à-dire que on a une possibilité de faire une filière économique du vélo dans notre région extraordinaire. Nous sommes la première destination vélo d'Europe. Si je vous interroge, peut-être pas ici, mais à peu près partout, tout le monde a dans son garage un vélo dont il ne se sert pas. Aujourd'hui, il y a rupture pour accéder aux pièces, parce qu'elles viennent de l'étranger. Elles coûtent très cher. Vous achetez un vélo en ce moment, vous mettez 6 à 8 mois avant d'avoir un vélo. Là, lui, il veut inventer une économie circulaire, c'est-à-dire des pièces détachées de vélo qu'il va remettre dans le circuit à l'échelle de la région. C'est extrêmement intelligent. Donc, donner de la force à tout ça, le rendre possible, être à l'écoute de ça, fabriquer des politiques publiques qui traduisent ce que des gens sont en train de faire de manière concrète. Ça, c'est la première marche à faire. La deuxième, c'est qu'il faut faire vivre de la démocratie beaucoup plus riche que celle que nous avons aujourd'hui. Nous avons un vieux modèle démocratique. Il faut aussi qu'on se le dise.
On est un peu en déficit.
On est pyramidaux. C'est le haut qui décide. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat a montré, ce que vous pouvez donner un exercice quand on va tirer au sort des gens qui n'avaient pas prévu d'être là, qui vont se former, qui vont comprendre des sujets. Il y a de l'imagination qui va être au rendez-vous. Et ça, vous voyez, pour moi, ça peut fédérer. Donc ça, nous, notre responsabilité, c'est de faire vivre ça. Alors, on n'embarquera pas tout le monde. Plein de gens qui préféreront être occupés à autre chose. Mais je pense qu'il faut avoir une majorité culturelle pour changer les choses. Et donc, on ne l'aura pas, nous, par la force de nos discours. On l'aura parce qu'on arrive à entraîner des gens dans de l'action, dans de la mobilisation, dans de l'expression. Et c'est, je crois, ça le boulot qui est à faire. En tout cas, c'est celui qu'on peut faire en partie à une échelle d'une région. Mais évidemment, ça ne se joue pas que là.
Je vais laisser la parole à Annie Duval-Petrix du journal M ta ville qui va vous poser la dernière question.
Oui, bonjour. Donc, François Hollande est venu nous voir il y a quelques jours et faisait un constat, l'extrême droite haute, une droite faible, un parti socialiste sans voix. Comment vous voyez le paysage qui se dessine à l'horizon des futures élections présidentielles ?
Il est forcément peu réjouissant, si on regarde aujourd'hui. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, c'est la vraie question. En fait, ce qu'on regarde, c'est les sondages qui ont une signification extrêmement faible, sauf quand ils sont très bons, où là, on les commente allègrement. Donc, on a un vrai sujet avec ça. C'est-à-dire que la campagne se joue par des effets d'image avant même que chacun ait un programme. C'est le coût médiatique, la visibilité. Et puis alors, on en a tous les jours des sondages. C'est complètement fou. Où est le débat politique aujourd'hui ? Alors, on m'a expliqué qu'il fallait dans les 2-3 derniers mois. Comment voulez-vous qu'on n'entraîne pas une espèce d'approche presque consumériste de la vie politique quand c'est le seul spectacle que l'on propose ? Voilà, c'est un tel a dit ça à tel moment par rapport à un autre. Franchement, il y a un appauvrissement général de la, du débat politique. Et moi, ça, je suis très inquiet de ça. Par ailleurs, si je regarde l'état de la gauche, puisque moi, même si je suis d'accord avec l'idée que l'écologie transcende tout ça, voilà, mais justement, peut-être c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas eu de réinvention. Elle n'est pas encore là. Elle frétille peut-être, il y a des signaux. Mais pour moi, l'écologie, dans son lien avec la question sociale, comme je vous l'ai exposé tout à l'heure, c'est le projet du siècle à venir. C'est le cœur de ce qui peut rassembler. Et malheureusement, on sent que le travail n'a pas totalement été fait pour porter ce rassemblement-là, cette transformation-là. Et il faut se décomplexer là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire « Oh, attention, il faut qu'on rentre à peu près dans les cases telles qu'elles existent. Il faut qu'on ait un projet qui donne envie, qui transforme, qui assume d'être à cet endroit-là. » Et c'est sans doute ça qui n'est pas sur la table aujourd'hui et qui fait que on peine à s'emballer pour aucun des candidats. Ouais. Alors moi, évidemment, je défends le candidat Yannick Jadot, puisque c'est ma famille politique. Mais je le défends dans l'idée que ce qu'il porte et ce que nous portons, c'est la question de l'écologie politique telle que je vous l'ai présentée. Et donc, je souhaite qu'il puisse y avoir un rassemblement autour, non pas de la personne, mais du projet qu'il y a derrière, parce que c'est le projet à venir. Si on ne s'attaque pas à ça, malheureusement, nous serons dans une situation intenable. Et là, ça sera les puissants contre les plus faibles, de manière beaucoup plus amplifiée encore qu'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je défends. Moi, je ne suis pas un fanat de qui que ce soit. Là, en ce moment, on reparle de Christiane Taubira, en se disant que peut-être c'est la personne qui pourrait rassembler. Mais ça, c'était le monde d'avant. Taubira, j'apprécie la personnalité. Mais est-ce qu'on croit à la femme ou à l'homme providentiel? C'est ce système-là qui marche plus. On élit un président, puis 2 ans après, on le déteste, puis après, on l'aime de nouveau, puis il y a quelque chose d'un peu irrationnel dans tout ça. Où est-ce qu'on explique aux gens ce qui va changer dans leur vie? Peut-être ce qu'ils auront en moins, mais ce qu'ils auront en mieux aussi. Qu'on va vivre différemment. C'est irresponsable de ne pas porter ces sujets-là de manière extrêmement forte. Et là, on ne sent pas que le débat va dans ce sens-là. Donc, j'espère néanmoins qu'il y aura un élan pour, évidemment, l'écologie, qu'il y aura un rassemblement autour de tout ça. Il y a une primaire populaire, vous le savez, que Anne Hidalgo envisage éventuellement de rejoindre. Moi, j'ai suivi ça avec attention. C'est des jeunes qui ont pris ça en main et avec, franchement, beaucoup de talent. Maintenant, le problème, c'est que on peut pas passer les 3 prochains mois ou les 2 prochains mois à faire une primaire et pas parler suffisamment du fond, à aller rencontrer les gens. Ce qui a fonctionné dans le passé, c'est quand des candidats ont porté des projets ancrés dans les territoires, du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut. Et là, c'est une campagne qui se passe pas dans les territoires, quasiment pas. Vous interrogez les gens autour, à part des campagnes d'affiches. On sent pas nous, on a des comités, mais on sent que ça a du mal à enclencher. Voilà. Vous regardez en 2017 ce qui s'est passé. Les 2 candidats, dont je ne partageais pas forcément les projets, qui ont réussi, c'est Emmanuel Macron et c'est Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 2 ont fait une démarche participative dans les territoires très forte. Et ça a intéressé les gens, ça a séduit les gens. Malheureusement, après, derrière, il a fait le contraire.
Oui.
Voilà. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il faut. Moi, je crois qu'on est aussi dans une crise des territoires. Un sentiment partout de ne plus habiter, de ne plus avoir de fierté, de ne plus être reconnu dans ce qu'on est. Et la fierté, elle peut pas être simplement je me replie sur le passé, je m'accroche à mon territoire. Ça, c'est ce que propose le Rassemblement National. Mmh. Mais cette fierté, quand même, ce sentiment de participer à une œuvre collective, faire société. C'est ça qui manque aujourd'hui. Et il y a beaucoup de territoires, les territoires ruraux en particulier, se sentent en dehors du monde. Les quartiers populaires se sentent en dehors du monde.
Oui.
Et ça, si on n'a pas un projet qui porte ça, qui dit nous sommes une France diverse et nous l'assumons. Nous ne sommes pas une France unique. Nous sommes une France d'égalité, bien sûr, mais nous sommes aussi une France de diversité. Et cette diversité-là, il faut la faire vivre. C'est ça notre atout. Et malheureusement, vous avez toujours des gens pour vous dire d'en haut, on va vous régler votre problème, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça ne marche pas. Et on est arrivé à un point où on risque la rupture. Et où on risque de laisser croire que le projet xénophobe, le projet autoritaire de Zemmour est celui qui pourrait l'embarquer, ou celui de Marine Le Pen.
Monsieur le vice-président,
je suis un bavard.
Je vous remercie. au bavardage était très intéressant. D'accord. Je vous remercie d'avoir partagé le café avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une excellente journée, ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci, c'était un plaisir pour moi.